Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Voici une affaire criminelle assez originale, puisque la victime, Anthony Ashley Cooper, est un lord anglais, un comte, le comte de Shaftesbury. Il est assassiné en novembre 2004 à Cannes, sur la Côte d'Azur. Par qui ? Eh bien, c'est tout l'enjeu de cette enquête. Je débrieferai cette histoire tout à l'heure avec la sœur de la victime, Frances Ashley Cooper. J'ai écrit cette histoire avec Hawkeys, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Nous sommes en novembre 2004 à Cannes, sur la Côte d'Azur. Et Lord Ashley Cooper a disparu. Là, il faut que je m'arrête 10 secondes avant de partir à sa recherche. Il faut quand même que je vous présente le personnage. Lord Anthony Ashley Cooper, 10e comte de Shaftesbury. Oh, ça en jette, hein. Mais ça n'est pas usurpé, hein. La statue qui trône au centre de Piccadilly Circus à Londres est un hommage à son arrière-grand-père. C'est dire si ça n'est pas n'importe qui. Ses ancêtres, 9 générations de comtes de Shaftesbury, ont siégé à la Chambre des Lords sans discontinuer depuis le XVIIe siècle. Sauf que lui, voyez-vous, c'est un grand original. D'abord, il a démissionné de la Chambre des Lords, et depuis, il profite de la vie. Il navigue entre Londres et la Côte d'Azur, et il s'adonne à la grande affaire de sa vie, les femmes. Au moment où débute cette histoire, en 2004, Lord Ashley Cooper, qui a 66 ans, est marié avec une certaine Jamila Mbarek, sa 2e épouse. Mais il a une maîtresse, Nadia, la petite trentaine. Il l'a rencontrée dans un bar à hôtesse de Cannes. Et il a décidé de la sortir du tapin. Et c'est elle, Nadia, qui la première s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de son amoureux. Il devait rentrer d'Angleterre le 4 novembre et passer la nuit au prestigieux Noga Hilton sur la Croisette. On est le 5 novembre, elle n'arrive pas à le joindre. Elle l'appelle une fois, deux fois, trois fois, et à chaque fois, elle tombe sur son répondeur. Alors elle appelle les cliniques et les hôpitaux.
Ashley Cooper, vous dites ? Non, désolé, nous n'avons personne à ce nom-là.
Et à un moment, il ne lui reste plus qu'une solution. Appeler sa femme, Jamila. Ils sont en instance de divorce, ça ne devrait pas être si embarrassant que ça.
Oui, j'ai vu Anthony vendredi. Il était d'ailleurs dans un état épouvantable, mal habillé, sale. On a très peu parlé. Il m'a demandé 100 euros pour payer son taxi, puis il est reparti. Et depuis, aucune nouvelle. Moi, je me demande s'il n'est pas parti au Mexique. Vous savez, il a une maîtresse là-bas, vous savez ça ? Ah, vous ne le saviez pas ?
Bim ! Prends ça dans les dents, ma petite poulette. Si Nadia ne savait pas que son chéri de Lord était une fine lame, maintenant, elle est au parfum. Cela dit, ça ne nous dit pas où est le comte. Nadia a alors l'idée d'appeler l'avocat du comte. C'est lui qui gère la procédure de divorce.
Je suis désolé, mademoiselle, mais je n'ai pas non plus de nouvelles. Je vous avoue que ça me surprend un peu parce qu'en principe, nous nous parlons au moins une fois par jour. Et d'ailleurs, nous avions convenu qu'il devait m'appeler le 5, justement, dans le cadre de la procédure de divorce avec son épouse, avec laquelle il devait parler le matin même.
Donc, Nadia a raison de s'inquiéter. Et elle n'est pas la seule. La sœur de Lord Ashley Cooper, elle aussi, appelle l'avocat.
Je ne comprends pas, très cher maître. Il m'avait dit qu'elle serait de retour à Londres le 10 novembre. Et depuis, je ne parviens pas à le joindre.
Quand il raccroche, l'avocat a un mauvais pressentiment. Il a même un très mauvais pressentiment. Parce qu'il la connaît, Jamila, la femme du Lord. Il sait qu'elle ne veut pas de ce divorce, et il sait aussi qu'elle ne s'est pas mariée par amour, mais par cupidité. Et donc c'est lui, l'avocat du comte, qui appelle le procureur de la République. Pour que les choses soient bien claires, monsieur le procureur, Je ne dis pas que Jamila Mbarak a assassiné son mari. Mais honnêtement, je pense qu'au minimum, elle le séquestre.
Écoutez, merci de m'avoir prévenu, cher maître. Je vais demander à la police judiciaire de faire quelques investigations.
Et donc, la brigade criminelle de Nice se met sur le coup. Et la première chose que font les flics, c'est d'aller traîner dans les bars à hôtesse de Cannes, puisqu'il semble que le comte y avait ses habitudes. Ah ben c'est vrai qu'on l'a pas vu depuis un bout de temps, Anthony. Ah Rosie, hein, qu'on l'a pas vu depuis un bout de temps. Nous ici, on l'appelle Anthony. On aime bien son style, aristo, ça change un peu. Et qu'est-ce qu'il fait quand il vient ici, ma chérie? Oh, il fait comme les autres. Il adore être entouré de jeunes femmes. Et il est généreux, hein. Il lui arrive de payer le champagne à tout le monde. Et il a une sacrée descente, hein.
12 jours après sa disparition, les policiers décident de lancer un appel à témoins dans la presse locale, qui se régale évidemment de cette histoire inespérée. Un lord anglais qui fréquente les claques de Cannes, ça n'est pas courant. Et donc c'est croustillant. Et dans la foulée débarquent les journalistes anglais, ceux des tabloïds, toujours avides d'histoires sulfureuses sur l'aristocratie britannique. Mais les appels passés dans la presse ne donnent rien. Alors, les policiers cannois commencent à s'intéresser à sa femme, Jamila. Jamila Mbarek. Comment cette jeune femme d'origine tunisienne s'est-elle retrouvée comtesse? Parce qu'elle est comtesse. Et cette quête les amène à plonger dans la vie d'Anthony Ashley Cooper.
Bon, voilà tout ce que j'ai pu recueillir sur lui. Il est né en 1938 d'un père britannique, donc, et d'une mère française. Son père meurt quand il a 8 ans. Il se marie en 76 avec la fille d'un diplomate, Lady Christina, avec laquelle il a 2 fils. Le mariage dure 22 ans. Divorce en 1998. Un an plus tard, il renonce à son siège à la Chambre des Lords. Et c'est la même année qu'il perd sa mère. Bon, d'accord. T'as pas plus frais comme information? J'y viens. C'est à ce moment-là qu'il commence à fréquenter les bars à hôtesses de la Côte d'Azur. Bon, là, je vous passe les détails. Il est riche, il passe d'une fille à l'autre. Même les journaux britanniques étaient au parfum. J'ai lu quelques journaux anglais qui sont pas piqués des hannetons. Ok, vieux. Bon, tu passes à l'essentiel. Et n'oublie pas que c'est Jamila qui nous intéresse. Et tout le reste, on s'en fout un peu. Patience, on y est. Donc, il rencontre Jamila Mbarek en 2002. Elle est là 41 ans. Elle est d'origine tunisienne. Elle est plutôt jolie. Et écoutez la suite. Très vite, elle lui annonce qu'elle est enceinte. Et donc, ils se marient dans la foulée en novembre 2002. Et alors, j'ai trouvé la liste des cadeaux de mariage. Elle a eu bien raison de lui passer la bague au doigt. Hein. Un bel appartement sur le hauteur de Cannes et un moulin dans le Gers. Plus une pension mensuelle de 7000 euros. Et c'est là qu'il découvre qu'elle a jamais été enceinte. Elle l'a embrouillée pour se faire épouser. Donc dispute, et le couple se met à battre de l'aile rapidement. Et donc c'est là qu'il rencontre Nadia, qui a 3 enfants, et à qui au passage il achète un appartement à Vines. Et il décide de divorcer. Et donc 3 mois plus tard, il a disparu. Voilà tout ce que j'ai pu collecter. Vous en pensez quoi? Eh ben, ils en pensent qu'il y a là un mobile. Jamila tue son mari pour rester pour l'éternité comtesse de Shaftesbury avec tous les avantages qui vont avec. À moins qu'il ne se soit barré à l'étranger. Il semble que ça pourrait être son genre. Bon, ok, tu appelles toutes les compagnies aériennes pour vérifier s'il a pu quitter la Côte d'Azur. La réponse est non. À ce stade, les limiers de la police judiciaire pourrait très bien aller toquer à la porte de Jamila Mbarek et la placer en garde à vue. Sauf que depuis le commissaire Maigret, les méthodes de travail ont un peu changé. On commence par bétonner le dossier, et quand on a des biscuits, alors on fonce. Pour l'instant, on en est au stade du bétonnage. Les flics veulent reconstituer les 48 heures qui précèdent la disparition d'Anthony Ashley Cooper. Bon, ce qu'on sait, c'est qu'il arrive à Nice en provenance d'Angleterre le 3 novembre. Donc le plan est de rejoindre Nadia à Vines, mais elle n'est pas là. Et donc ce soir-là, il crèche dans un hôtel un peu miteux près de l'aéroport.
pas tout seul. D'après ce qu'on m'a dit, une jeune femme a dormi avec lui, une pute, si vous voulez mon avis. Et on a pu identifier cette fille? Non, impossible. La nuit suivante, Anthony Ashley Cooper la passe avec sa maîtresse, Nadia. Nadia raconte qu'ils ont déjeuné avec ses trois enfants, et qu'ensuite elle est rentrée à Vence, et qu'Anthony lui a pris un taxi pour Menton, où d'après ce qu'elle dit, il avait rendez-vous avec une voyante. Les policiers la retrouvent, cette voyante.
Ah oui, je me souviens d'un homme d'un certain âge, très, très élégant, mais très simple. Hein. Il m'a demandé de l'appeler Anthony, c'est vous dire. Et pourquoi est-ce qu'il est venu vous voir? Il voulait savoir si sa nouvelle compagne était réellement enceinte de lui. Et alors? Eh bien, moi, dans les tarots, je n'ai pas vu l'ombre d'un bébé. Hein. Je le lui ai dit. Et je lui ai même dit que je voyais tout le contraire d'une naissance. Et là, il m'a arrêté. Il m'a dit, mot pour mot, hein, je ne suis pas là pour entendre de mauvais présages. Dans ma famille, on meurt à 90 ans.
C'est troublant, hein, cette vision de la voyante, qui n'a pas vu l'ombre d'une naissance, mais au contraire. Sauf que vous savez que je ne crois pas un mot de ce genre de sorcière. Bref, en sortant de chez elle, d'après ce qu'apprennent les flics, Ashley Cooper passe la soirée dans un parafis. Il en sort passablement bourré et il zigzague jusqu'au Hilton où il passe la nuit seul. Le lendemain 5 novembre, il ponctionne 2 mignonnettes de vodka dans le minibar et il descend prendre son petit déjeuner sur la terrasse.
Bonjour, monsieur le comte. Qu'est-ce que je vous sers ce matin?
Un gin tonic, s'il vous plaît.
Ah oui, le matin, sacré pochetron. À ce moment-là, le serveur raconte que son téléphone sonne.
Quand il a raccroché, il m'a demandé de mettre son verre au frais en me disant qu'il allait chercher sa femme Jamila à l'aéroport et qu'il n'en avait pas pour longtemps.
Et il n'est jamais revenu finir son gin tonic. Il est peut-être temps d'aller lui rendre une petite visite à cette Jamila.
Oh, vous savez, Anthony, il va, il vient, il apparaît, il disparaît. Vous l'avez vu le 5 novembre? Oui, il est passé 10 minutes. À quelle heure? Il devait être 11h30. Il était complètement ivre, comme souvent, et dans un état lamentable. Ses vêtements étaient dégoûtants. Il sentait l'urine et les excréments.
Sympa, le portrait. Sauf que le serveur du Hilton, celui qui lui a servi le gin tonic, n'a jamais dit qu'il était ivre et sale. Alors pourquoi dit-elle ça? Les policiers décident de la placer sur écoute et ils surprennent une conversation très suspecte avec son avocat. Elle est à l'hôpital à ce moment-là, semble-t-il pour une dépression.
Bonjour maître. Écoutez, je me sens pas très bien. Je suis trop faible pour parler. Je vous passe ma sœur, Naïma. Allô? Ah bonjour monsieur. Voilà ma sœur, elle va pas trop bien. Elle a besoin de parler. Elle a des révélations très importantes à vous faire et...
Il a raccroché, parce qu'il se doute que sa cliente est sur écoute. Les policiers se disent, elle est sur le point de craquer. Alors ils vont l'accueillir à l'hôpital et ils la placent en garde à vue. Et effectivement, elle est mûre.
Le 7 novembre, dont mon frère Mohamed, il est arrivé le matin d'Allemagne où il habite. Et il avait beaucoup bu. Et comme je vous l'ai dit, Anthony, il était ivre aussi. Et là, Mohamed, il lui a demandé 10 000 euros qu'il avait promis de me donner. Et Anthony, il lui a dit, mais je les lui ai déjà donnés. Et puis là, ils ont commencé à s'embrouiller parce que Mohamed a reproché à Anthony de ne pas lui avoir dit bonjour. Et puis d'un coup, mon frère, il s'est précipité sur Anthony et ils se sont empoignés. C'était une bagarre d'ivrogne. J'ai crié pour les faire arrêter, mais j'arrivais à rien.
Et donc Anthony, il est tombé, Mohamed, il était sur lui, et il l'a étranglé. Moi, je savais pas quoi faire, j'étais tétanisé, vous voyez. Et Mohamed, quand il a réalisé qu'Anthony était mort, il a dit, il faut se débarrasser du corps. Et donc, il l'a pris par les pieds, et il l'a traîné dans l'escalier jusqu'au sous-sol. Bien. Et votre rôle à vous, dans tout ça? Moi, j'ai ouvert les portes, c'est tout. Hein. C'est mon frère qui a mis le corps à l'arrière de la voiture, et puis après il est parti. Et où l'a-t-il amené? Ah ça, je sais pas. Hein. Donc elle accuse son frère, et elle n'y est pour rien. Pour l'instant, ça suffit à la mettre en examen pour complicité d'homicide et pour la coller en tôle. Et maintenant, il faut retrouver le frère. Un mandat d'arrêt européen est lancé et il est arrêté le soir même à Munich, en Allemagne. On verra quelle est sa version. Ça va prendre un peu de temps, bien sûr, le temps qu'il soit extradé. Un mois plus tard, voilà Mohamed Mbarek face à la juge d'instruction. Pas très inquiet. Elle m'accuse. J'étais même pas en France. Le jour de la disparition du mari de ma sœur, j'étais pas en France, je suis rentré à Munich la veille. Le 4 novembre. J'étais témoin là-bas. Je peux même vous montrer mon billet d'avion si vous voulez. Ça reste à vérifier. En attendant, le juge le met en examen pour homicide et il l'envoie lui aussi derrière les barreaux. Il ne reste plus à savoir lequel des deux ment. Pour le savoir, la juge fait installer des micro-espions au parloir de la prison. Un jour où Jamila reçoit une visite de sa sœur, Naïma.
Jamila, il faut que tu insistes plus sur la bagarre d'ivrogne qu'il y a eu. Mais je l'ai déjà fait. Oui, mais toi, quel rôle t'as joué dans la mort de ton mari? Moi, j'ai juste bougé le corps avec Mohamed.
Tiens, en garde à vue, elle a dit qu'elle n'y avait pas touché.
52 000 euros que t'avais promis à mon maître. Chut, faut pas parler de ça. Ben pourquoi, moi je veux savoir. Oui, je l'ai fait.
Excellent. Jamila aurait donc payé son frère pour tuer le comte. La garce. Et maintenant, pour retrouver le corps de Lord Ashley Cooper, il n'y a qu'à regarder le parcours du téléphone portable de Mohamed. Si ça se trouve, il l'avait gardé dans la poche ce jour-là. Bon, c'est bon, hein? Mohamed Mbarek a reçu deux appels l'après-midi du 5 novembre et il se trouvait près du vallon de la Rague. C'est à 15 km de Cannes, ça. Et ça ne va pas être coton parce que c'est grand comme périmètre. Les recherches durent plusieurs semaines. Et puis un jour, dans une décharge sauvage, les policiers tombent sur un squelette. Je vous le dis, ça fait causer dans les tabloïds britanniques, ça. Le comte de Shaftesbury dans une décharge. Oh my goodness! Alors, que donne l'autopsie du corps de Lord Ashley Cooper?
Double fracture du larynx. Il a donc été étranglé.
Sur ce point, Jamila n'a pas menti. En revanche, quand elle dit que son frère a traîné le corps jusqu'à la voiture en le tirant par les pieds, elle ment.
Je n'ai trouvé strictement aucun traumatisme au niveau de la tête. Et d'ailleurs pas non plus de traces de frottement.
Ah bon? Pourtant, il y a une soixantaine de marches entre l'appartement et le rez-de-chaussée. À moins que Mohamed n'ait utilisé un tapis volant, il y a un blême. Jamila a au moins aidé à transporter le cadavre. Ça paraît clair. Passons maintenant aux 150 000 euros que Jamila aurait donné à Mohamed. La juge décide de poser directement la question à Jamila.
Madame Mbarek, nous disposons d'écoutes réalisées au parloir.
Vous avez bien parlé avec votre sœur de 150 000 euros que vous auriez donné à votre frère. Je vous jure, j'ai pas compris de quoi elle parlait, ma sœur, à ce moment-là. Cette somme, elle correspond à rien. Quand on écoute les enregistrements, madame, vous donnez l'impression, au contraire, de très bien comprendre de quoi elle parle. Mais non, je vous jure que j'ai pas compris cette histoire de 150 000 euros. Mais je reconnais que j'ai donné à mon frère la somme de 40 000 en cash. J'avais pas le choix. Mohamed, il est assez violent. Hein. Je ne pouvais pas lui refuser. Avez-vous aidé à transporter le corps de votre mari, madame Mbarek? Oui. Sur ce point-là, j'avoue, j'ai menti.
Et maintenant, l'alibi de Mohamed Mbarek. Il affirme qu'il était en Allemagne le jour du crime. Alors les policiers vérifient. Il est bien arrivé en avion à Munich le matin du 4 novembre. Et d'ailleurs, plusieurs personnes attestent de sa présence en Allemagne l'après-midi du 4. En revanche, le 5 novembre, jour du meurtre, sa femme dit qu'il n'était pas en Allemagne. Et le lendemain non plus.
Bien, monsieur Mbarek, je vous informe que nous avons vérifié votre alibi et qu'il ne tient pas la route. Hein. J'ai toutes les raisons de penser que vous étiez à Cannes le 5 novembre. Je me trompe? Non, vous vous trompez pas. Je suis venu en voiture. Pour tuer votre beau-frère? Non, c'était un accident. Je suis pas un assassin. J'étais sous. Et Anthony, il est arrivé chez ma soeur en fin de matinée. Il était sous lui aussi. Et en plus, il m'a pas salué. Il m'a même bousculé. Ça m'a mis hors de moi. Alors on s'est battu. Il est tombé. J'ai serré le cou. C'était un accident. Je regrette. Je sais que je devrais pas boire autant. Ensuite, vous vous êtes débarrassé du corps. Avec votre soeur. Ah non, non. Ma soeur, elle a rien fait. Je me suis occupé du cadavre tout seul.
Reste à vérifier cette histoire d'argent. Ces 150 000 euros que Jamila aurait versé à son frère, possiblement pour le remercier. En remontant les comptes bancaires du frère et de la sœur, ça se confirme. Elle lui a bien versé de l'argent en plusieurs fois. 8 000 euros, plus 20 000 euros, plus 10 000 euros. Ça fait 38 000 et ça correspond à peu près aux 40 000 euros que Jamila reconnaît avoir donné à son frère. Mais pour faire 150, il manque donc 110 000 euros. Cette somme, elle allait la lui donner. Elle l'a retirée de son assurance vie pour la déposer sur son compte courant. La diablesse a donc bien mandaté son frère pour qu'il tue son mari. Il reste une dernière chose à vérifier. Mohamed a dit que sa sœur ne l'avait pas aidé à transporter le corps. Alors, pour en avoir le cœur net, la juge organise une reconstitution dans l'appartement.
Bien. Monsieur Mbarek, donc vous allez prendre ce mannequin qui pèse 80 kilos, c'est-à-dire le poids de Monsieur Ashley Cooper, et vous allez, en passant par l'escalier, le transporter jusqu'à la voiture. Allez-y.
80 kilos. Il n'y arrive pas. Seul, c'est beaucoup trop lourd. Et comme il a compris qu'il était piégé, il fait des simagrées, il parle au mannequin en s'excusant de l'avoir tué. Il lui dit que c'était un accident. Il fait même des prières pour le pauvre comte de Shaftesbury. Le cirque, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Donc ça paraît clair. Jamila Mbarek a commandité le meurtre de son mari auprès de son frère. Et ils ont évacué le cadavre ensemble. Et le mobile? Il est vieux comme le monde. Le flouze. Le testament du Lord stipule qu'en cas de décès, Jamila héritait de l'appartement de Cannes, du moulin dans le Gers et d'un lac en Irlande qui rapporte beaucoup d'argent. Et en divorçant, alors elle perdait tout. Cela dit, en commanditant son assassinat, elle va tout perdre. Et la liberté avec. Enfin, c'est fou comme les gens ne réfléchissent pas avant de commettre un meurtre. Le procès de Djamila et Mohamed Mbarek s'ouvre à Nice en mai 2007. Le président, évidemment, décide de diffuser l'enregistrement de la conversation des deux sœurs au parloir. Et c'est confondant. Ils pourront raconter tout ce qu'ils veulent. C'est accablant. D'autant qu'un nouvel élément vient impliquer Djamila. Donc je confirme que l'étude de la téléphonie de Mbarek Djamila révèle que l'avant-veille du meurtre, elle s'est rendue dans le vallon de la Rague où le cadavre a été retrouvé. L'avant-veille du meurtre. Un repérage, donc. Tu parles d'un accident. Et puis défilent à la barre de nombreuses femmes, toutes passées par le lit du comte de Shaftesbury. Et toutes confirment qu'il était très généreux. Ah mais moi j'ai passé une seule nuit avec lui. Et après, mais figurez-vous qu'il a épongé toutes mes dettes et qu'il m'a même offert une voiture que j'ai d'ailleurs toujours aujourd'hui. Après 4 jours de procès, le frère et la sœur sont condamnés tous les deux à 25 ans de prison sans peine de sûreté. Mohamed trouve qu'il ne s'en sort pas si mal et donc il ne fait pas appel. Mais Djamila fait appel. Et donc elle est rejugée en février 2009 devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Et ma foi, elle a eu raison de faire appel puisqu'elle gagne 5 ans et elle écope de 20 ans de réclusion criminelle. Et bien sûr, elle n'hérite de rien. Allez savoir si ça n'est pas sa plus lourde peine. Et nous allons débriefer cette histoire avec vous, donc Frances Ashley Cooper, qui est la sœur d'Anthony Ashley Cooper. Vous ne voulez pas, je crois, qu'on vous appelle Lady Ashley Cooper, hein?
Non, ça m'est égal, hein, qu'on m'appelle en France, si vous voulez, normalement, l'aristocratie à la Révolution française a été supprimée. je tiens pas plus que ça, parce qu'ici, ça veut rien dire, je trouve.
Alors, avant de parler d'elle, c'est-à-dire de Djamila Mbarek, parlons un peu de votre frère. Comment est-ce que votre famille gérait, j'ai envie de dire, son originalité, et notamment cette dépendance absolue aux femmes et à l'alcool?
Ben, on gérait ça très très difficilement. C'était difficile et ses fils d'essayer de le réconforter et de le faire revenir en Angleterre.
Oui.
Parce qu'on sentait bien qu'il était perdu là sur la Côte d'Azur. Il était perdu. Mon frère était quelqu'un de très très fragile, très généreux, très gentil. C'était un homme gentil. Vraiment un type qui avait un cœur d'or, mais il était perdu. Notre père est mort quand il avait 8 ans, et quand ma mère est décédée, il était déjà pas mal, il avait pas 20 ans, hein. Quand ma mère est décédée, il en avait 60, mais elle lui tenait un peu la tête hors de l'eau parce qu'elle l'admirait beaucoup. Et puis voilà, il est parti en vrille, comme on dit. Hein.
Est-ce qu'on ça peut expliquer au fond que étant quand même un aristocrate important.
Mais il était très aimé, hein, il était très aimé.
Où ça, en Angleterre?
Ouais, par tout le personnel qui travaillait au domaine, tout ça, les gens l'aimaient beaucoup, hein. Mmh. Aussi.
Et ce besoin perpétuel de femme alors, c'est quoi? C'est un besoin d'être aimé?
Je pense. Vous avez raison. Je pense que c'est ça. Oui. Mmh.
Mais quand besoin je dis besoin,
besoin d'être admiré, besoin d'être. Il manquait d'assurance, il n'était pas sûr de lui.
Est-ce que c'est pour ça qu'il a quitté la Chambre des Lords? Parce que c'est pas banal, ça non plus. Ce sont des choses dont on hérite, alors c'est assez rare qu'on les lâche.
Ouais, je saurais pas vous dire pourquoi. Peut-être il sentait que c'était pas sa place. Peut-être dans la mesure où il avait une vie un peu, on va dire, chaotique, peut-être.
Ce que j'entends bien, c'est que vous n'étiez pas très, très proches l'un de l'autre.
Ah si, moi je... Mais moi, j'aimais beaucoup mon frère, mais moi, j'avais des jeunes enfants, j'avais une vie maritale, j'avais du boulot, de gérer toutes les hôtesses et toutes ces femmes, tout ça, c'était un peu compliqué, un peu lourd. Mais j'aimais beaucoup mon frère, je l'ai toujours aimé. On ne s'est jamais disputé. Pourtant, en Angleterre, dans les familles aristocratiques comme celle la nôtre, c'est le fils aîné qui héritait de tout. Et tous les frères et sœurs autour n'avaient rien. Hein.
C'est-à-dire même les biens ? Il n'y a pas que les titres, même les biens, vous n'aviez rien et lui tout ?
Moi, les sœurs de mon père, elles étaient fauchées. Voilà, c'est comme ça. Mais si vous voulez, maintenant, je crois que ça a un peu changé. Hein. Voilà.
Mais comment ça passait ? Comment il passait, lui, dans ce milieu aristocratique anglais ?
Bah, il le trouvait un peu original, on va dire. Un peu original, oui.
Il était surveillé par la presse tabloïde britannique.
Ah bah la presse tabloïde britannique, c'est une horreur. Ça surveille tout ce que ça peut racler comme tout ce qu'ils peuvent se mettre sous la dent. Hein. C'est vraiment une presse de caniveau. Hein,
moi, il parlait de lui.
Pas trop avant cet événement, parce qu'il était ici en France. Pas trop, non. C'est quand il a disparu que ça s'est déchaîné, bien sûr.
Parlons de Jamila. Vous la connaissiez, je suppose.
Je l'avais rencontrée une fois.
Ah, une seule fois ?
Oui, parce que je devais la rencontrer une deuxième fois, et je devais retrouver mon frère à Paris pour un week-end, et elle devait venir. Et elle n'est pas venue en prétextant que, comme elle était enceinte, elle avait un malaise. Bon, on sait que l'histoire de l'enceinte, c'était du pipeau, voilà.
Pour ce que vous savez, est-ce qu'il y avait de l'amour entre eux ?
Ah non, non, pas du tout.
De sa part à lui ?
Bah lui, oui, il était un peu ébloui parce que c'est quelqu'un qui sûrement a beaucoup de charme pour les hommes. Hein.
Mais elle n'était pas du tout amoureuse à votre avis ?
Ah bah non, ça... Non.
Y avait-il quelqu'un autour de lui, dans son entourage, pour lui dire « Oh, Anthony, tu vois pas qu'elle en veut qu'à ton argent ?»
Malheureusement, il n'écoutait personne. Et son fils... Son deuxième fils a essayé vraiment de lui faire comprendre, mais il a pas voulu écouter.
Il n'écoutait personne.
Non. Vous savez qu'il avait deux fils et que son fils aîné est mort de chagrin d'une crise cardiaque à 26 ans.
Ouais, 15 jours après la mort de son père, c'est ça ?
15 jours après que je lui ai téléphoné pour lui dire qu'on avait retrouvé le corps de son père.
26 ans.
Oui. Et son deuxième fils est quelqu'un de vraiment extraordinaire.
Qui a repris le titre de
voilà, qui a repris le titre, qui a refait tout le domaine, qui est vraiment c'est quelqu'un de formidable. Voilà.
Alors, Madame Ashley Cooper, vous vous souvenez de ce moment où il se marie parce qu'elle dit qu'elle est enceinte ? Vous n'êtes pas invité au mariage, d'ailleurs, vous ?
Non, mais il n'y avait personne dans la famille. C'était en Hollande, je crois. Je crois que c'était en Hollande, il me semble me rappeler. Dans un... Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, parce qu'elle avait été mariée auparavant à un Hollandais.
D'accord.
Donc, pourquoi ils se sont mariés en Hollande ? J'en sais rien.
Mais moment où, donc, ils se marient, donc en catimini, et où on découvre juste après qu'en vérité, elle n'est pas enceinte, il vous en a parlé de ça ? Ça vous a laissé un souvenir ?
Ah, moi je lui ai dit que j'étais très choquée, voilà.
Et lui ne l'était pas.
Bah lui il savait plus quoi penser, je pense. Il était perdu. C'est quelqu'un qui était vraiment perdu là.
Perdu à cause de l'alcool ?
Il y avait l'alcool qui jouait un rôle, oui, certainement. Et puis je pense qu'il sentait que sa vie partait en brioche, quoi, comme on dit. Hein.
Est-ce que lui il avait compris qu'elle n'en voulait qu'à son portefeuille ?
Oui, parce que il a compris quand il a demandé le divorce, il s'est rendu compte que voilà qu'elle l'avait mené, elle lui avait menti, qu'elle s'intéressait vraiment à l'argent d'une manière très forte, on va dire.
Mais jusque-là, il l'avait pas vu.
Bah, je sais pas si. Vous savez, c'est curieux, il y a le cliché de l'homme âgé qu'une jeune femme fait tourner en bourrique et fait sortir le chéquier tous les quarts d'heure. Ça existe
vraiment
beaucoup au cinéma, à Hollywood, et dans beaucoup d'endroits et beaucoup de romans. Hein.
Oui, tout à fait. Ses enfants, ils s'exprimaient là-dessus, notamment ses deux fils, ils s'exprimaient là-dessus.
Son deuxième fils surtout, oui, parce que il avait rencontré, il avait compris.
Lui, il avait compris dès le début.
Oui.
Et le père ne voulait pas l'écouter.
Non.
Alors quand Jamila Mbarek est condamnée à 20 ans de prison, enfin 25 au premier procès, et 20 ans au second, j'imagine que vous êtes là les deux fois.
Ah, moi j'étais là du début à la fin.
Oui.
Et mon neveu aussi.
Cette peine, vous paraît juste?
Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je suis désolée, je ne peux pas dire quelque chose. De toute façon, moi je suis une fervente adversaire de la peine de mort.
Mmh.
C'est quelque chose qui me... Voilà. Et après, je m'excuse, hein, mais je ne sais pas...
Non, parce que c'est un assassinat. Pour assassinat, il pouvait prendre perpétuité.
Bien sûr.
Il s'en sort avec 25 ans, et elle, qui est complice d'assassinat, est coupable de transport de corps, s'en sort avec 20 ans. Tout ça, c'est un peu des condamnations à minima.
Je trouve aussi.
Oui. On est d'accord.
Oui, parce que les preuves, elles étaient abondantes et tout à fait solides. Hein.
Je vous remercie infiniment, Madame Ashley Cooper, d'avoir partagé tout cela avec nous, d'avoir accepté de revenir sur la mort de votre frère tant d'années après.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.